Et quand je suis né, mon père travaillait. Oh, c'est très important ça, parce que mon père travaillait aux papeteries de Guyenne et faisait les 3-8. C'est-à-dire, bon, tantôt il travaillait la nuit et le jour où je suis né, il débauchait à 5 heures de l'après-midi. Et quand il est arrivé, à 5 heures, ma mère était déjà prête, était prête à accoucher. Il lui a dit vite, vite, l'enfant est là. J'ai envoyé un petit voisin qui a pris son vélo, qui est allé chercher le docteur à Thiviers. Et le docteur, à l'époque, Thiviers était à au moins 12 km, je crois qu'il y a 12-15 km. Le docteur venait avec sa jument, sa carriole. Alors ma mère, comme j'étais le quatrième enfant, ma mère a dit à mon père, prends vite un saladier, il est là, je sortais, quoi. Il est là. Prends vite un saladier. Ils avaient 2 litres de gnôle qu'il a versé dans le saladier pour se désinfecter les mains, puis faire flamber les ciseaux après. C'est lui qui a coupé le cordon ombilical et puis qui m'a remodelé la tête, etc. Quand le docteur est arrivé 2 heures plus tard, peut-être le temps qu'il a fallu, quoi. Mon père a débouché une bouteille, ils ont trinqué ensemble. Voilà ma naissance. Parce que je crois qu'à partir de là, j'ai voulu tout faire tout seul, toujours seul, comme ça. Quand j'ai étudié la musique, Antonio est témoin, là, le boulot que j'ai fait seul, un boulot énorme. Moi qui étais de la campagne, qui n'avait rien. Mon père, n'ayant plus sa mère, son père étant très 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 dur, mon père se réfugiait dans la famille de ma mère, qui habitait l'étang, à Saint-Jory-de-Chalais, un lieu dit qui s'appelle l'étang. Et ma grand-mère elle-même était veuve, avait perdu, mon grand-père maternel était mort très jeune aussi, d'une congestion, etc. quoi. Bon. Et mon père se réfugiant là, dans cette famille où il retrouvait l'affection qui lui manquait, naturellement, avec cet oncle Élie, les atomes crochus marchaient déjà. Et alors, mon père, à un moment donné, voyait que son accordéon risquait de s'abîmer, quoi, dedans, comme on dit, il s'abîmait. Il devait se rouiller parce que c'était des petits accordéons diatoniques qui avaient des aciers qui étaient fragiles à l'humidité. Il l'a vendu ou cédé à l'oncle. Et l'oncle est arrivé avec cet accordéon, fou de joie, devant la ferme, s'est assis sur le timon de la boge, on appelait la boge, qui était tirée par les bœufs, a joué toute la nuit. Le matin, il connaissait 3 chansons. Et la grand-mère, toute la nuit, l'avait appelé en lui disant, « Élie, Deur, Rento », elle lui disait. Bon, et puis mon oncle Élie est devenu un virtuose diatonique. Tu l'as connu, mon oncle Élie, hein? Toi? Hein? Tu l'as connu?
Ouais.
Il jouait très très bien.
Mais je l'ai connu.
Il jouait, par exemple, il jouait des airs. À l'époque, les gens étaient analphabètes, la plupart. Alors, pour garder les chansons de l'époque, les gars inventaient des paroles dans les balles. Alors, c'était des paroles grivoises. Par exemple, il y avait une polka qu'il jouait qui faisait à peu près ça, c'était... Et les paroles disaient ceci... Les filles n'aiment pas le gouya que ben d'engaire. Les filles n'aiment pas le gouya que ben d'empe. Vous avez compris?
Oui, je comprends, voilà. Un peu toi.
Bon, alors, moi j'ai vécu dans cette ambiance d'accordéon qu'on retrouvait toujours dans des soirs de battage, etc. Et quand mes parents habitaient à Négronde, mes parents tenaient un café. Et le soir... des fois, je sortais sur le trottoir, là, et j'allais, le trottoir qui allait au coin de la rue, j'entendais un dancing qui était très loin. Mais là, j'avais à peu près un peu plus vieux que Jamie, là, j'avais 3 ans, 3 ans et demi, et j'entendais des relents d'accordéon diatonique, et ça me faisait pleurer. Déjà, je chialais. Quand j'entendais cette espèce de, surtout l'accordéon musette, le diatonique, il a un son qui est strident, qui est rugueux, qui dérange ou qui plaît. Et alors, moi, mes parents me cherchaient, ils s'occupaient des clients, mais à un moment donné, il fallait m'envoyer au lit. Oui, il est passé celui-là. Comme on était cinq, il fallait nous chercher un peu tous. Et moi, j'étais appuyé contre une gouttière, là, et j'étais tout transi et je chialais. Alors, et je ne disais pas ce que j'avais. Alors, mes parents croyaient que j'étais malade. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu as? Il est malade, il a pris froid, et là, on faisait rentrer, voilà. Alors, voilà comment j'ai reçu l'accordéon. Un jour, ça c'était dans les années noires de la guerre, au début de la guerre, en 41-42, je crois. 41, je crois, fin 41. Mon père, un soir, nous étions à table, comme ça, puis mon père décide, il dit à mon frère qui est plus âgé que moi, à Marcel, et à moi, il me dit, ça vous intéresserait d'apprendre l'accordéon? C'est comme s'il nous avait demandé si un malade, s'il voulait de la santé. Et moi, j'en rêvais en tout cas. Et mon frère était très doué aussi, Marcel. Sifflait très bien. Siffle encore très, très, très bien et très juste. Alors, il me dit, mais vous n'avez qu'à aller voir Valerio. Et Valerio, c'était un gars qui habitait à Vonac, à 2 km. Et c'était un gars qui... Son père était italien. Habitait Paris. Sa mère était originaire de Vonac et son père faisait partie des émigrants italiens, la vague d'émigrants qui était arrivée, qui avait fui le fascisme, qui avait fui Mussolini, qui était arrivé entre les deux guerres. Et alors, Valerio, là, donc Jo Valerio, était un gars qui était pour nous, et il nous paraissait très très dégourdi, puisque déjà il avait des années d'avance, c'était un jeune homme, et il jouait parfaitement de l'accordéon. Tu l'avais connu, toi, Valerio?
Très peu. Je crois que je l'avais vu une ou deux fois.
Il jouait très, très bien. Il était très jalousé par les accordéonistes des environs parce que c'était un accordéoniste qui jouait sa main droite impeccablement, qui jouait sa main gauche avec des basses, alors que ici les basses n'existaient pas sur l'accordéon. On faisait les niapapoum, on faisait n'importe quoi. Où les doigts tombaient à la main gauche, c'était comme ça. Alors, je suis allé voir Valerio, et Valerio, lui, à l'époque, avait déjà joué à Radio 37, qui était le poste de la Tour Eiffel. C'était un crack. Et il s'était réfugié en Dordogne parce qu'il était d'une classe de gens qui auraient dû partir au STO, Service Travail Obligatoire en Allemagne. Alors, il s'était rappelé ses racines, il était venu à Vonac. C'était comme ça qu'on s'est rencontrés. Et alors, le dimanche matin, on y allait avec mon frère, et on n'avait pas d'accordéon. Et moi, à l'époque, pour pallier à ça, j'avais cousu des boutons de chemise sur un carton en forme de clavier, et j'avais marqué le nom des notes à côté des boutons et le nom et le numéro des doigts pour jouer les gammes. Et je chantais mes gammes. Et j'apprenais comme ça mes gammes. Et le jour que j'ai eu un accordéon, j'ai déjà su jouer mes gammes. Et alors, je ratais pas une vacance scolaire à l'époque pour aller à Saint-Jory-de-Chalais. J'allais garder les vaches chez mon oncle, où il y a mon cousin Maurice, et je jouais sur son accordéon. Déjà, lui, il avait un gros accordéon comme ça, qui avait des registres, etc., des changements de son. Alors, c'est pour moi, c'était merveilleux, parce que au début, d'ailleurs, mon cousin aussi m'avait dit, mais tu devrais aussi jouer, toi, parce qu'il avait un gros harmonica qui lui avait porté une tante qui était boniche à Nice, et il m'avait prêté l'harmonica, et puis moi j'étais en jouant, en gardant les vaches, il m'a dit, putain, mais il joue déjà, hein? Alors tu devrais jouer l'accordéon. Et puis, mais je ne lui avais pas dit que je prenais des leçons, et je ne lui ai dit qu'après. Alors voilà. Alors, bon, j'ai travaillé comme ça. J'ai eu un très 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 bon départ avec Valerio. Et malheureusement, Valerio a été pris dans une rafle. Il jouait à la Frégate à Périgueux. Il jouait dans le repère de la Gestapo. Alors qu'il a, avec une fausse carte d'identité. Et il n'a pas été pris là. Il a été pris dans une rafle à Périgueux et envoyé à Mauthausen. J'ai commencé à jouer dans la commune de Sorge, là, vers le village de Lodini. Le premier bal que j'ai fait, c'était sur la commune de Négronde, au village des Maines. Au village des Maines, chez Gaston Salex, chez la famille Salex. Ils avaient, pour l'occasion, parce que c'était la fête, ça s'était dit de bouche à oreille quand on dansait. Et alors, pour l'occasion, ils avaient balayé le charama. Le charama, c'est l'endroit au-dessus des vaches où on entasse le foin. Et comme il n'y avait plus de foin, ils avaient porté le foin ailleurs, ils l'avaient balayé. On montait avec une échelle devant la mangeoire des vaches et on dansait là-dessus. Et moi, j'étais dans mon coin. Nous y étions partis la nuit à pied depuis Négronde. À l'époque, mon défunt frère n'était pas encore, n'avait pas été déporté en Allemagne et il était là. Et on marchait en file indienne, il y avait de la neige comme ça. Moi, j'étais le plus petit, j'étais derrière. On me portait l'accordéon. Oh, à l'époque, on jouait ça. De notre amour, on jouait. Alors j'étais moi un des rares à jouer des tangos, parce qu'il y avait des gens dans les bals, on trouvait des gens qui jouaient du diatonique beaucoup encore, qui étaient des survivants d'une autre époque, qui jouaient des polkas, qui jouaient. Alors moi qui était tout petit môme là, qui sortait des culottes courtes, je faisais figure de star parce que j'apportais quelque chose de tout nouveau. J'apportais des rythmes nouveaux, j'apportais des rumbas, je jouais, il y avait une rumba qui est très jolie encore si on la, quand on la transpose là sur un électronique avec des rythmes nouveaux, elle est dans le coup, c'était Macaquita. C'est encore très, 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 c'est très dansant si on le transpose sur...
À l'époque, ça faisait
moderne. Oui, bien sûr, il y avait aussi ça, là. Ça, c'était chanté dans un film par Andrex. Et celle-là aussi... Thank you. Parce que c'est un instrument qui a tout. Il a l'accompagnement, il a les contrechamps même dans sa main gauche, il a tout. Et à la limite, comme il fait corps avec le gars qui joue, c'est un instrument qui est sensuel. C'est exact ce que je dis. Hein? C'est un instrument qui est sensuel. D'ailleurs, les accordéonistes qui se respectent, je ne sais pas si c'est l'accordéoniste ou l'instrument qui fait l'individu, mais... l'accordéoniste en général, un vrai accordéoniste, il est très sensuel. Il a ça, il est rêveur, il a beaucoup d'illusions, parce que l'accordéon lui apporte un jour le satisfait, un jour le déçoit. C'est un instrument où quand on travaille, un jour on est contenté d'être arrivé à passer un trait, d'avoir trouvé quelque chose dans les accords, puisque c'est infini, on trouve toujours quelque chose dans la vie. Sur un instrument. Et un autre jour, où on a rêvé avec ça, bon, on se réveille et on reprend l'instrument, on est déçu. Parce qu'on ne réalise pas ce que l'on pense, ou on est en retard, ou l'esprit est allé trop loin. On avait des par-dessus rafistolés, on avait les habits qu'on avait à l'époque, des vieilles bottes qui étaient en caoutchouc synthétique, certains, d'autres des sabots carrément. Et puis les fameuses semelles en bois, le cuiré, il n'y en avait pas. Parce qu'à l'époque, quand on portait des souliers qui étaient chouettes, c'était des souliers à semelles crêpes. Alors, ils avaient des litres de gnôle. Comme ça, les litres de gnôle en cours de route, toc. À moi, il me faisait boire de l'agnol, j'étais gosse, moi, j'avais 14 ans. Je buvais de l'agnol, il me faisait... Je fumais des cigarettes américaines, des parachutages. J'ai fumé jusqu'à 2 paquets, moi, de Camel, comme ça, de Chesterfield, dans la nuit. Je dégueulais tout ce que je savais le lendemain.
Ça chauffait
le lendemain, quand je revenais, moi, je prenais le train à Négronde et mon frère me donnait ma serviette parce que j'allais à l'école, à la prof, à Périgueux. C'est une vie dingue, hein. Et alors c'était une vie d'ailleurs où il y avait tout était débridé, même l'amour, même les femmes. Là, tout était débridé. Les femmes étaient faciles, très très faciles. Moi, la première femme, une fois j'accompagnais une fille, j'avais l'impression d'accompagner ma grand-mère parce qu'elle avait 21 ans. Ça lui faisait 7 ans de plus que moi, quoi. Et c'est elle qui... J'avais envie de la sauter, mais je n'osais pas. Je me disais, comment je vais pouvoir m'y prendre, etc. Pour moi, c'était une entreprise. C'était comme si je montais sur la lune.
Il fallait que tu lui donnes un bonbon.
Et alors, c'était une nièce au père Bastide, d'ailleurs. Et puis c'est elle qui m'avait dit, mais si on se couchait là sur le bord de la route, j'attendais que ça, moi. Et voilà, il y avait des choses comme ça. Alors, il y avait un dancing là où on allait, c'était pas un dancing, c'était des particuliers qui prêtaient leur maison et qui, à l'occasion, vendaient leur baricou de blanc qu'ils avaient, qui était du noir là, qui tordait les gars, terrible. Hein. Et alors, ça dansait comme chez la Chiroulette, là, à Sorge, sur le territoire de la commune de Sorge. On dansait dans la cuisine, il y avait l'âtre, là, la grande cheminée, on dansait dans la cuisine, et il y avait quelques marches qui montaient dans la chambre à coucher. Une chambre à coucher où il y avait des lits de coin. Et là, il n'y avait pas de lumière. Là, il y avait une lampe à pétrole dans la cuisine, avec le grand cerceau, comme ça, là, en cuivre. Et puis, dans la chambre à coucher, il y avait une table ronde ou deux, je ne sais plus. Et la vieille mémé, là, la vieille dame, elle apportait des litres de blanc comme ça. Elle avait plusieurs litres sur sa poitrine avec sa bougie, un bougeoir qu'elle tenait à la main, comme ça. Puis on buvait, on buvait n'importe quoi, on fumait n'importe quoi, puisque on était dans la période où les miliciens pouvaient partir de Périgueux, remonter la route de Paris, ce qui est arrivé, et tuer des gars, faire une rafle et emmener tout le monde. Donc c'était une vie à 200 à l'heure.
Au jour le jour.
Ah oui, c'était à la nuit, à la nuit.
Oui,
c'était à la nuit, à la nuit. Et alors, là, sur les deux lits, il y avait des édredons. Et alors, il y avait des femmes comme ça, dont une... nous, on l'avait baptisée, les gars, j'entendais, ils l'avaient baptisée la truie, en patois, le troio, parce que tout le monde l'a sauté. Alors, elle sortait pas de sous l'édredon. Les gars ne faisaient que rentrer, sortir de sous l'édredon, tirer un coup, revenir, buvaient un coup de blanc, à côté des gens, coude à coude, comme ça, tout ça, c'était très normal. C'était très, 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 très normal.
C'est chaleureux, quoi.
Et il y a des gens qui vivent encore, qui l'ont vécu, quoi, avec moi, quoi, qui s'ils m'entendent parler, là, ils vont s'y voir. Et alors, quand la vieille portait ses litres de blanc, comme ça, dans la cuisine, elle portait ses litres de blanc, alors, il y avait des gars qui faisaient semblant de se battre. Ils faisaient semblant de se battre, et ils disaient, sors dehors, d'accord, parce qu'il y en avait un, il avait fauché un litre de blanc à la vieille. Et ils sortaient dehors, ils le buvaient tous sur le tas de fumier. Il jetait la bouteille et puis re-rentrait. Après tout, ça s'est arrangé. Ça a bu le litre à l'œil. Comme ça. Et après, ça se terminait par des réveillons et on rentrait au jour, comme ça. C'est démentiel. Hein? Alors, la mère Lachaud, à l'époque, pour 500 francs, les petits billets de 500 francs qu'il y avait à l'époque, on mettait 500 francs, elle montait à poil sur la table. Et alors moi j'étais suffoqué à mon âge de voir une femme avec tant de poils comme ça devant mon nez. Là je m'imaginais pas la femme comme ça, cette femme qui avait là, qui tournait ses nichons, tout ça, tout était abondant, évidemment.
C'était le ça. Petit rat de l'opéra, quoi.
Et que c'est des choses ça qui sont vraies, hein. Les gars qui m'entendent là, ils vont
rigoler, parce que oui. C'est vrai que oui. De voir une poilue comme ça, à ton âge, t'aurais dû rougir.
Et aussi, il y avait ça aussi comme un jouet. Oui, à l'époque, je gagnais beaucoup d'argent. Si on peut faire des comparaisons, en 45, 46, 47, les gens rentraient de captivité. Il y a eu beaucoup, beaucoup de noces. J'ai fait, moi, jusqu'à 70 noces dans l'année. Ça veut dire que j'étais deux fois par semaine, des fois, à noces. Et alors, je jouais dans un dancing à Thiviers, le samedi après-midi, là, que connaît Antonio. Chez Madame Papon, sur la place du Minage à Thiviers, dans le coin, là, il y a des escaliers qui montaient à un dancing, là, une petite salle, et il y avait un bistrot, là, dans un recoin de maison. Le vrai dancing, comme les dancings sont nés dans les barrières à Paris, dans les quartiers, comme ça. Voilà, le vrai
le
dancing. Ça, c'était comme ça, il fallait redescendre des marches après pour arriver au niveau de la piste, dans un coin, l'estrade, pas de micro. Là, on râpait de la paraffine, ou des bougies sur le plancher pour que ça glisse mieux. Et les filles et les gars rentraient le jour de la foire. Et alors là, il y avait le contact. Il y avait un contact avec la population et les gars qui venaient, qui disaient, bon, tu es pris pour jouer ce soir, on a une soirée comme ça, une noce, etc. Ou bien samedi prochain ou l'autre samedi. Et là, alors je jouais beaucoup parce que je jouais. Donc ce samedi après-midi, je montais par le train, moi, à Négronde. Je prenais le train à midi et quelques. J'arrivais à midi à Thiviers. Je portais mon accordéon à pied, je montais à la gare, de la gare, je mangeais, je jouais tout de suite, parce qu'il fallait jouer, j'avais peu de temps pour manger, il fallait jouer à 1h15 par là. C'était la foire, donc il fallait jouer à 1h15. Et 1h15 jusqu'à 6h, et à 6h, tout s'envolait, tout était parti. Alors moi je remangeais un peu si j'avais le temps, et je reprenais le train du soir si je n'allais pas jouer ailleurs. Si je savais que j'allais jouer ailleurs, je montais mon vélo. Comme quoi, il faut toute la musique dans le monde. Faut en renier aucune.
Alors justement, à ce propos...
Moi, je suis... je m'excuse.
Ouais,
vas-y. Moi, maintenant, je me sens... Je me sens pas ni accordéoniste, ni bandoneoniste, ni saxophoniste, rien du tout. Je suis surtout musicien. Parce que petit à petit, je suis arrivé à comprendre la musique grâce à des instruments. Les instruments, c'est le moyen, c'est tout. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas une spécialité définie, parce que si c'était à refaire, peut-être que je jouerais la trompette, peut-être pour savoir, peut-être que je jouerais autre chose, quoi. Mais en tout cas, ça a été bien pour moi quand même de commencer par l'accordéon, qui était un instrument complet. J'ai rien d'arrêté. Comme je vous l'ai dit, un jour j'ai envie de jouer, un jour j'ai envie, un jour j'aurai envie de jouer une bourrée, un jour j'aurai envie de jouer une très très vieille chanson qui me vient dans les oreilles, que j'ai appris comme ça, parce que ma grand-mère me l'a chantée autrefois. Et puis un autre jour, j'aurai envie de mettre le nez dans un truc de rythme. C'est puisque je suis libre.